Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous vos réactions sur les violences de Boko Haram, des violences qui se multiplient depuis le début de cette année. 16 villages du nord-est du Nigeria ont été attaqués, brûlés, des villages désormais rayés de la carte par ce groupe islamiste et le bilan de cette barbarie est encore incertain, mais plusieurs sources parlent d'au moins 2000 morts. En tout cas, il s'agit incontestablement de l'attaque la plus meurtrière perpétrée par Boko Haram depuis le début de son insurrection il y a 5 ans. Je vous rappelle que depuis 2009, Boko Haram est responsable de la mort de plus de 13 000 personnes. Et comme les djihadistes de l'organisation État islamique, eh bien Boko Haram a également une stratégie de conquête territoriale. Le groupe contrôle aujourd'hui une très large partie du nord-est du Nigeria, mais il est également très actif dans les zones frontalières avec le Tchad, le Niger et le Cameroun. D'ailleurs, lundi, d'intenses combats ont opposé des soldats camerounais à des centaines d'islamistes venus du Nigeria. Alors pourquoi ? Pourquoi la lutte contre Boko Haram est-elle inefficace? Quelle doit être la réaction du Nigeria, mais aussi des pays frontaliers? On voit bien que le Cameroun se mobilise, intervient. Le Cameroun d'ailleurs qui se sent seul dans cette lutte, dans ce combat contre le groupe radical. Et dites-nous s'il faut aujourd'hui envisager une intervention militaire des Occidentaux. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et pour commencer cette émission, pour lancer le débat, une réaction, un témoignage qui nous vient du Nigeria. Yvan nous appelle d'Abuja, la capitale. Bonjour Yvan.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Et vous dites qu'il faut une intervention internationale aujourd'hui?
Absolument, il faut une intervention internationale parce que on voit justement que les pays frontaliers ont échoué justement à mener une coalition efficace contre le groupe djihadiste. Donc actuellement, la tuerie, ça continue. La barbarie extraordinaire continue dans le nord du Nigeria. Les populations sont livrées à eux. Personne ne semble être intéressé à leur sort. Je crois que actuellement l'étape...
Alors, Yvan, excusez-nous, il y a des micro-coupures, on va essayer de vous rappeler dans un instant, peut-être déplacez-vous, on va vous retrouver, car il est intéressant évidemment de voir comment les Nigérians perçoivent évidemment cette avancée de Boko Haram, qui est présent, je le disais, au nord-est du pays, donc pour l'instant, Abuja, qui est au sud, est épargné évidemment par la barbarie de ce groupe radical. Amadou, vous êtes à Yaoundé, bonjour Amadou.
Bonjour et merci de nous accueillir.
Merci à vous de nous appeler. Et vous avez l'impression, comme vos autorités camerounaises, qu'à part l'armée camerounaise, il n'y a personne, il n'y a pas de volonté politique de la part des autres pays de la sous-région pour lutter contre Boko Haram.
Tout à fait, Juan. Ce n'est pas une seule impression, c'est la réalité sur le terrain. Comment voulez-vous que le Nigeria, qui a la plus grande en Afrique de l'Ouest, en termes d'effectifs, en termes de matériel, n'arrive pas à tenir ses positions face aux bandits de Boko Haram. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Et il y a les pays comme le Niger, le Tchad, qui ne veulent pas engager leurs soldats sur le terrain, au front. Seul le Cameroun engage ses combattants et arrive à tenir ses positions face à Boko Haram. Et c'est ce que nous déplorons. Parce que, imaginez-vous, il y a cela quelques mois à Paris, il y a eu une conférence sur la sécurité dans le bassin du lac Tchad.
Tout à fait.
Tous les pays concernés se sont engagés à mettre leurs soldats au service de la lutte commune contre Boko Haram. Mais aujourd'hui, seul le Cameroun est au front. Mmh. Et nous sommes vraiment désolés, les autres membres de la coalition, si on peut l'appeler ainsi, le Nigeria, le Niger, le Tchad, ne jouent pas franc jeu.
Boko Haram est en train de mettre le feu au Cameroun et personne ne bouge, le moindre petit doigt. Ce sont les propos tenus par un responsable militaire camerounais après le raid meurtrier mené par les islamistes de Boko Haram lundi à une dizaine de kilomètres de la frontière, hein, donc en territoire camerounais. Les autorités camerounaises assurent avoir tué au moins 143 insurgés de Boko Haram. Il y a tout de même Amadou, 2000 soldats camerounais déployés dans l'extrême nord de votre pays pour combattre ces islamistes nigérians. On peut dire quand même qu'il y a encore quelques mois, le Cameroun semblait un peu ignorer la menace Boko Haram.
Oui, non, on n'ignorait pas. C'est parce que la menace n'était pas directement orientée sur le Cameroun. Et nous attendions à faire une manœuvre des autorités nigériennes pour qu'elles demandent au Cameroun, effectivement, on peut faire pour éradiquer Boko Haram. Ouais. Mais malheureusement, l'appel n'est pas venu du Nigeria. Il est venu de la France, très loin de là. La France n'est pas directement menacée. Et le Cameroun s'est réfugié véritablement dans la lutte.
Alors, le réseau se dégrade. Bon, on va retrouver un autre Camerounais de Paris. C'est Samuel qui nous appelle. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour Anne.
Il ne faut pas laisser le Cameroun tout seul.
Bah, c'est non, absolument, parce que le Cameroun est devenu la principale cible de Boko Haram. Et l'armée camerounaise s'est comportée avec vaillance, avec beaucoup de détermination. Mais ça ne peut pas tenir plus longtemps. On n'a pas de moyens illimités. Et tout repose maintenant sur le Cameroun. Mmh. L'armée nigériane est totalement absente. Les hommes politiques nigériens sont totalement absents. Le président du Nigeria, qui est responsable de la sécurité intérieure de son pays et de la vie des citoyens, tient des propos absolument ahurissants sur sa campagne électorale sans faire une seule allusion au combat contre Boko Haram.
Ouais. Alors justement, ne raccrochez pas, Samuel. On comprend évidemment votre réaction en tant que Camerounais. Que font les autorités nigérianes, les voisins nigérians? Yvan, à Abuja, je pense que le réseau est meilleur. Rebonjour, Yvan.
Oui, rebonjour.
Voilà, on vous entend mieux. Comment vous réagissez aux interrogations de Samuel? C'est vrai qu'on est en pleine campagne électorale en ce moment au Nigeria, et on n'a pas l'impression que Boko Haram domine véritablement cette campagne électorale et les différents discours.
Oui, en fait, le constat de Samuel est très clair. Ici, justement, eh bien, les leaders semblent ignorer l'ampleur du problème et se consacre plutôt bien à la campagne électorale. Est-ce que vous voyez? Je crois que la réponse aujourd'hui viendra d'ailleurs, non pas du Nigeria, parce que le Nigeria est impuissant à régler Boko Haram. C'est une évidence. Ça crève les yeux. Le Nigeria ne peut pas régler aujourd'hui le problème de Boko Haram.
Ouais, pourtant, l'armée nigériane est présentée comme la plus importante armée africaine, avec un budget colossal, un budget de plusieurs milliards d'euros. Mais le problème, on le voit quand on entend certains soldats s'exprimer, ils se plaignent du manque de matériel, du matériel qui n'est pas adapté à Boko Haram. D'ailleurs, l'armée aujourd'hui, elle ne parvient pas à contenir l'insurrection de Boko Haram, mais en même temps, elle perd même du terrain, puisque Boko Haram contrôle de plus en plus de villages. Samuel, à Paris, que faut-il aujourd'hui, si on ne peut pas compter, dites-vous, sur les pays de la sous-région? Est-ce qu'il faut compter sur les Occidentaux?
Ah, tout à fait, Juan, tout à fait. Écoutez, il y a une solution qui peut peut-être faire bouger les lignes, notamment du côté de Boko Haram. Si on lance une mise à prix sur la tête de Abubakar, le
chef du groupe islamiste.
Oui, parce que là, jusqu'à présent, il est tranquille, hein, personne ne l'attaque, personne ne le dérange. Mais si on lance, on met sa tête à prix comme l'ont fait les Américains, si on envoie des drones ou des avions survoler sa région, je pense que ça pourrait peut-être l'inquiéter. Il n'a pas caché son intention de créer un califat dans la région.
Ah bah c'est son objectif, hein. C'est son but.
La communauté internationale doit comprendre. C'est que pour le moment, l'armée camerounaise tient. Elle ne peut pas tenir longtemps parce que faute les hommes, les moyens, on n'a pas de moyens illimités. Si le verrou Nord Cameroun saute, on risque d'assister à l'application de la fameuse théorie des dominos. Parce que ce sera après le Nigeria, le Niger et le Tchad. Et comme il y a la fraternité entre les extrémistes, les djihadistes, tous vont venir au secours de Boko Haram pour pouvoir créer la jonction avec le sud, de la Libye.
Donc vous craignez véritablement une régionalisation de cette insurrection. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci à Yvan d'Abuja, Amadou de Yaoundé, Samuel de Paris, 33 9 693 693 70. Clément est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Tchad, on vous écoute.
Le problème, tel que je suis les autres qui ont parlé, je pense qu'on a évité un autre sujet, c'est quand même qu'il y a déjà sur le plan politique des engagements qui ont été pris par les différents pays. Il y a aussi déjà la communauté internationale qui est plus ou moins basée avec l'opération Barkhane qui normalement est censée aussi aider aussi bien dans les renseignements que dans le support logistique. Mais le problème que moi je constate, c'est que tout ça ne fonctionne toujours pas encore. Et ça c'est clair. On ne peut pas continuer par tolérer toutes ces agissions et ne pas agir.
Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est ça toute la question. Il y a eu le sommet de Paris, comme le rappelait tout à l'heure un auditeur, et puis en octobre dernier, avec l'Union africaine, les pays de la sous-région se sont mis d'accord pour créer une force multinationale conjointe contre les insurgés islamistes, et on voit bien qu'elle a du mal à se mettre en place, cette force.
Vous le faites bien de le rappeler, mais la question que moi je pose toujours, c'est politiquement c'est bien parti, mais pratiquement aucun pays ne se sentait vraiment concerné par Boko Haram encore. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que nos politiques se rendent compte que réellement la menace n'est pas contre le Nigeria, pas contre le Cameroun, contre le Tchad et contre le Niger, mais c'est contre toute la sous-région et contre la politique de la sous-région. Pour moi, ce qui me fait dire qu'il y a un problème, c'est le fait, je prends l'exemple du Cameroun tout à l'heure où l'auditeur parlait aussi du combat qui a eu lieu, 143 Boko Haram sont tués.
Oui.
C'est une bonne chose que ça se passe sur le territoire camerounais. Quand je dis c'est une bonne chose, dans le sens où le combat a eu lieu, l'armée camerounaise a pris le dessus, mais ensuite il y a quand même un reliquat qui a fui et qui a traversé pour aller au Nigeria. Mais là, les soldats camerounais ne peuvent pas traverser la frontière nigérienne parce que c'est politique, parce qu'il faut avoir l'autorisation d'Abuja pour traverser.
Donc il faut le droit de poursuite aujourd'hui. Il faut que les soldats camerounais puissent, en cas d'agression, traverser la frontière et poursuivre les djihadistes sur le territoire nigérian.
C'est exactement ce que moi j'estime comme une solution, parce que autrement, ce n'est pas l'armée nigériane qui est poursuivie, c'est quand même des rebelles, c'est quand même des bandits. Et si on doit tenir compte des frontaliers, alors que eux, les bandits, ne tiennent pas compte des frontières, c'est là où le problème se pose.
Alors vous êtes au Tchad. Clément, vous êtes au Tchad, vous nous appelez de la capitale N'Djamena. On a l'un de vos compatriotes qui lui nous appelle de Lyon en France, qui souhaite également participer à ce débat. Roukoulmian, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, on vous écoute.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec les différents auditeurs. Il manque la volonté politique. Mais nos chefs d'État, ils ont beau faire des sommets, mais sur le terrain, Boko Haram n'attend pas ils n'attendent pas leur résolution à ce qu'elles se mettent concrètement. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Boko Haram a actuellement les moyens de déstabiliser toute la sous-région. Et nos chefs d'État regardent patiemment la pieuvre s'agrandir. Ce qu'il faut actuellement pour résoudre le problème, c'est d'abord qu'il y ait un commandement commun. On ne peut pas avoir différentes armées sous différents commandements pour pouvoir agir contre Boko Haram. Il faut qu'il y ait un commandement commun et des objectifs communs, c'est-à-dire frapper Boko Haram là où il se trouve, avec tous les moyens nécessaires. Est-ce que vous me comprenez ?
Ben je vous comprends et je vous écoute attentivement. En même temps, ce que vous dites, c'est le discours prononcé par les chefs d'État de la sous-région depuis maintenant de nombreux mois. Et la violence continue. Elle est d'ailleurs de plus en plus horrible au fait des derniers événements qu'on a découverts il y a quelques jours, mais qui remontent au début du mois de janvier. Est-ce qu'il faut une intervention occidentale aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut déployer des militaires occidentaux sur le terrain?
Moi, je trouve que déployer des militaires occidentaux sur le terrain, ça peut être un avantage comme un inconvénient. L'inconvénient serait que ça risque de faire un appel d'air à tous les djihadistes du monde entier pour venir faire une lutte anti-occidentale. Bon, ben,
On va voir ce qu'en pense Bertrand. Bertrand qui est au Cameroun, qui est donc lui aussi évidemment concerné par la menace et la violence de Boko Haram. Bonjour Bertrand.
Bonjour Juan, bonjour Victor de RFI.
Bienvenue, on vous écoute.
Juan, je constate depuis que le débat a commencé que tout le monde évite une question. Boko Haram, la véritable question de cette histoire de Boko Haram, c'est la question sociale. Si la coalition aujourd'hui a échoué, c'est parce que la question sociale a été évitée. On veut nous faire croire que Boko Haram, c'est une question sécuritaire. Elle n'est pas à la base une question de sécurité. Elle est en train de le devenir.
Elle est en train, ça fait déjà un moment que Boko Haram est une menace pour la sécurité. Alors peut-être qu'effectivement au départ c'était plus un phénomène, un problème social qui a donné de l'ampleur et de l'envergure à ce groupe djihadiste. Mais enfin aujourd'hui, ça fait bien longtemps que Boko Haram n'est plus considéré comme une secte. Aujourd'hui, Boko Haram est clairement considéré comme un groupe terroriste.
Oui, ben, Juan, vous me permettez. C'est-à-dire que quand je dis que Boko Haram, qu'on a oublié au départ l'essentiel pour se mettre à courir après ceci, aujourd'hui crée la panique et la peur, je veux par là dire quoi, Juan? Je veux par là dire que, Juan, tous les jours, on tue des djihadistes. C'est-à-dire quand l'armée camerounaise lance les raids, c'est des personnes qui meurent. Mais on se rend compte que chaque jour, Boko Haram ne fait que prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que cela? C'est-à-dire que vous trouvez des jeunes qui sont des vrais, qui sont en proie à eux-mêmes parce qu'ils manquent un certain nombre de choses, qui se livrent à accepter d'être enrôlés par cette secte. Moi, je crois aujourd'hui qu'il faut qu'on regarde le problème en face. Et le problème en face, de regarder, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des moyens comme ceci, c'est-à-dire permettre de mettre, comme le précédent auditeur disait, des propositions à cette jeunesse, c'est-à-dire pour dénoncer cette Boko Haram, leur proposer des conditions qui permettent qu'ils déposent des armes, qu'ils réussissent à dénoncer cette secte, alors oui, qu'ils seront, par exemple, exceptés d'un certain nombre
donc,
de choses.
Des réponses, Bertrand, des réponses sociales et économiques, si je vous comprends bien, pour vous, ça doit être aujourd'hui la priorité pour essayer d'éviter que de nouveaux jeunes aillent rejoindre les rangs de ce groupe radical. Le réseau n'est pas très bon avec Douala, et décidément, on n'a pas beaucoup de chance ce matin avec les réseaux téléphoniques. Mais c'est vrai que vous nous appelez d'endroits où il faut le dire clairement, les réseaux de téléphone ne sont pas toujours très très bons. Qu'avez-vous au standard au 33 9 693 693 70. On va prendre Oumar à Paris alors. Bonjour Oumar.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Ben voilà exactement, mais je viens d'entendre Bertrand et il parle de coalition qui a échoué. Mais il n'y a jamais eu de coalition, Juan, que je sache. Les paroles lénifiantes des Assises Paris, de la rencontre de Paris, ben, les actes n'ont pas suivi ces paroles-là. Et la réponse serait non pas seulement sociale et économique. Je pense que primordial, ce qui est primordial donc de rappeler, c'est d'abord la mutualisation des forces. Hein. C'est-à-dire il faudrait que le Cameroun et le Nigeria, ces deux pays principaux qui sont en première ligne, mutualisent leurs forces. On en a parlé.
Mais ça c'est prévu, donc, c'est prévu, les pays...
Oui, mais le problème c'est que le Goodluck, Jonathan et Paul Biya ne sont jamais rencontrés.
Ouais.
Voyez-vous, alors donc comment est-ce que un accord, ne serait-ce qu'un début d'accord, un début de mutualisation, ne serait-ce qu'une coordination des forces sur le terrain, peuvent être envisageables? C'est pas possible, il faudrait donc que ces deux dirigeants fassent table rase de leurs différends, peu importe ce qu'ils ont eu à vivre au passé, mais qu'ils fassent table rase de tout ça, et qu'ils se rencontrent enfin, parce que le jour où toute la France battait le pavé, mais il y a eu pratiquement plus de 2000 morts.
Ouais.
Et il y a même une jeune fille, Juan, vous l'avez su, une jeune fille de 10 ans qui a été utilisée comme kamikaze.
Effectivement, c'était samedi dernier, une fille de 10 ans utilisée comme bombe humaine. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'une vingtaine de personnes ont trouvé la mort au moment de cet attentat. C'était dans le nord-est du Nigeria. Oumar, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé et merci pour tous les autres qui patientent au standard et qui souhaitaient s'exprimer. Je n'ai pas eu le temps de lire le moindre commentaire posté sur la page Facebook de l'émission. On en a reçu plus de 400. Le débat se poursuit en tout cas sur Facebook. Merci à tous de votre fidélité. Et je vous rappelle que demain, nous prendrons le temps en première partie d'émission de répondre à toutes vos questions sur Boko Haram. Donc surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, rejoignez-nous. Le standard reste ouvert. Et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que le débat africain d'Alain Foucault dimanche sera justement consacré à la lutte contre Boko Haram.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.
Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Juan.
On vous retrouve dans 10 minutes.